Tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Ce Shabbat coïncidera avec la Saint-Valentin, le jour des amoureux. Notre parasha de la semaine, Mishpatim, il est aussi question d'un couple qui s'est aimé, mais pas de la manière souhaitée par la Torah. En effet, nous savons que le couple est au centre du projet de vie du judaïsme, et que se marier, construire un foyer heureux, est un enjeu essentiel aux yeux de la Torah, et que réussir sa vie, c'est réussir son mariage. Et que tous nos sages, en plus de leur génie, étaient tous des maris exceptionnels. Le mariage, ce cadre indispensable pour voir un homme et une femme s'aimer et s'épanouir véritablement, tant sur le plan sentimental que sur le plan physique. Or la Torah, elle va avoir le courage, il y a près de 3500 ans, d'évoquer un homme et une jeune femme vierges qui se sont aimés librement sans être mariés. Première surprise pour nous tous, car rappelons-nous que la Torah ne parle pas seulement d'un homme et d'une jeune fille en rupture de la société, livrés à eux-mêmes, et qui trouveront dans cette liaison un remède de leur mal-être. Non, la Torah parle aussi, comme le souligne le Ramban Nachmanide, d'un jeune homme de bonne famille, qui a séduit une jeune fille vierge, elle aussi de bonne famille, et qui l'a convaincue de ne pas attendre le mariage pour avoir une relation intime. Plus incroyable encore, le Talmud dans Yevamot va envisager le cas où le séducteur n'est personne d'autre que le Kohen Gadol, le grand prêtre de Jérusalem, le plus haut dignitaire religieux du judaïsme. Et ce Kohen Gadol a une relation hors mariage, impensable pour nous, pas pour nos sages, qui connaissent la nature humaine, et le fameux adage « En apotropos la rayot » signifiant que la tentation n'a aucune barrière, ni aucune limite, et que personne peut être sûr à 100% que lui, jamais, ne cédera à son désir. D'où l'importance des règles de Yichud, cette interdiction pour un homme de s'isoler avec une femme, même si cet homme est le grand rabbin d'Israël, et cette femme dirige le plus grand séminaire pour jeunes filles de la Terre Sainte. Fermons cette parenthèse et revenons à ce couple, ce jeune homme et cette jeune fille qui se sont aimés hors mariage. On se serait attendu que la Torah voue aux gémonies ce couple, l'excommunie, recommande aux parents de chasser de leur maison ces enfants si dépravés à leurs yeux. Et surtout dans les temps passés. Or, deuxième surprise, la Torah va faire preuve d'un incroyable pragmatisme et recommander aux deux tourtereaux de se marier, et ce uniquement si les deux compères le souhaitent. Point final. Pas de peine de mort, pas d'anathème, pas de carrette, cette peine où l'âme est retranchée. La Torah, qui pour un simple objet porté dans le domaine public, le Shabbat, ordonne de condamner à mort le coupable si celui-ci avait été averti de la gravité de sa faute. La même Torah qui va faire un drame d'un peu de lait tombé dans un plat de viande. Cette Torah va simplement exiger de normaliser cette situation et laisser le choix au jeune homme comme à la jeune fille de se marier ou de se séparer. Rappelons-nous que, selon la Torah, il est strictement impossible de marier une femme sans son consentement plein et entier. Et dans ce cas aussi, la jeune femme séduite a la possibilité de dire non et d'estimer que, malgré cette relation intime, elle ne se voit pas mariée avec cet homme. Dès lors, si la jeune femme séduite refuse, ou bien si le séducteur ne souhaite pas l'épouser, la Torah prévoit une indemnité pour la jeune fille séduite à trois titres différents. Premièrement, selon Rashi, pour l'outrage subi, même si elle était consentante, car la notion de virginité est sacrée dans le judaïsme, et que la perte de cette virginité pour une jeune fille constitue un préjudice pour elle. Deuxième motif d'indemnité, la honte pour elle et sa famille d'avoir été naïve et s'être laissée séduire. Et enfin, un troisième versement pour le fait même d'avoir abusé de cette jeune fille. Car la dernière surprise que je vous réserve est la suivante. Toute cette histoire racontée par la Torah d'un homme qui séduit une jeune fille vierge ne concerne qu'une jeune fille âgée tout au plus de 12 ans et demi. Mais au-delà de cet âge, la Torah estime que la jeune femme a pris ses responsabilités en toute conscience et que dès lors, il n'est pas nécessaire d'intervenir et de légiférer dans la vie de ce couple. Car le cœur de ce passage du séducteur se situe dans le mot employé par la Torah, Yéphaté. Littéralement, il séduira, dont la racine est petit, littéralement un naïf, voire un sot, signifiant que l'homme a profité de certains manques de maturité de l'adolescente, de sa naïveté, pour parler à son cœur, selon Rashi. Le détourner, expression que nous retrouvons au sujet de Shechem, ce prince cananéen qui a parlé au cœur de Dina, la fille de Yaakov, notre patriarche, et l'a séduite, puis a abusé d'elle. Et ce séducteur est considéré, aux yeux de la Torah, comme un mazik, un endommageur, coupable d'avoir profité du manque de discernement de la jeune fille, qui a fini par céder à ses avances. Et la Torah va donc condamner ce séducteur à indemniser sa victime, sauf s'il se marie. Dans ce cas, la jeune fille séduite bénéficiera de l'ensemble des avantages accordés à toute mariée juive, l'obligation pour le mari de subvenir à tous les besoins de son épouse, tant sur le plan physique que sentimental. Une dernière remarque avant de conclure, celle de Rabbi Yaakov Tzvi de Kellerbourg, sage allemand du XIXe siècle, qui s'interroge. On comprend très bien pourquoi la Torah nous enseigne que le séducteur doit indemniser la jeune fille séduite. Mais pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous enseigner que ces deux amoureux peuvent se marier? Qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Ils sont juifs, tous les deux, majeurs. C'est évident qu'ils peuvent se marier, s'ils le souhaitent. Le Rav répond de manière éclairante, car selon le judaïsme, une relation intime n'a de sens que dans un cadre marital, comme le texte sacré le stipule. Un homme épousera une femme, la sanctifiera, puis il pourra débuter une vie conjugale. Dès lors, la Torah aurait pu sanctionner ce séducteur et la jeune fille, et leur interdire de se marier, pour avoir outrepassé l'interdiction de se lier intimement sans être marié, interdit dans la nature et l'objet de discussion parmi nos sages, mais surtout pour avoir oublié que contrairement aux animaux, pour les hommes, l'union des corps est le couronnement de l'union des esprits, l'aboutissement d'un engagement mutuel, fort et officiel, devant Dieu et devant les hommes, de deux êtres, à s'aimer, se respecter, se chérir mutuellement. Et enfin, pour s'être privé de cette première nuit de noces, cette nuit de tous les mystères, de tous les fantasmes, de toutes les émotions, où pour la première fois, ce couple nouvellement marié se retrouve seul à seul, après une belle fête, intimidé, parfois même paralysé, mais tellement heureux de vivre de tels instants. Pour toutes ces raisons, il aurait été donc possible d'interdire à ce couple fautif de se marier. Mais le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, leur donne une deuxième chance, en s'unissant sous une choupa, ce dénuptial. Ce dénuptial représentant le ciel, le Tout-Puissant qui y réside, symbole de l'amour éternel, du saint béni soit-il, pour ce couple qui se forme. Car en conclusion, certains attendent la Saint-Valentin, un jour dans l'année, pour déclarer à leur bien-aimé leur flamme et leur amour, alors que, pour le judaïsme, c'est tous les jours que l'on se doit de dire à sa femme combien on est heureux de s'être unis sous cette roupa, et ce, même après des années de vie commune, convaincu qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le mariage. Shabbat shalom, à vous tous.
Coulame.